se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h,
Brunet Neumann.
Salut les amis, citoyens et citoyennes, c'est Laurent Neumann.
Bonjour les amis, c'est Éric Brunet.
Alors oui, on va parler de l'affaire Fillon. On va même parler des rebondissements dans l'affaire Fillon. Avant d'écouter ce que Éric et moi, on en pense, le mieux peut-être, c'est de commencer par écouter Éliane Houlette.
Ah, c'est l'ancienne... Qui est Éliane Houlette?
Eh oui, c'est l'ancienne procureure de la République, hein, le parquet financier.
Et c'était la patronne du parquet national financier nommée par Madame Taubira.
Tu as raison de le préciser.
Sous Hollande.
On en parlera. Il se trouve qu'elle était auditionnée il y a quelques jours par une commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Elle a dit ceci et ça a tout fait démarrer.
Le plus difficile, franchement, c'est d'avoir été de gérer en même temps la pression des journalistes et surtout la pression du parquet général. J'ai mis un peu sur une fille, je regardais les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation. Les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11h, les demandes de précision. J'ai été convoquée au parquet général parce que le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de voie procédurale. Bon, donc, vous voyez, on ne peut que se poser des questions, quoi.
Mais
c'est un contrôle très étroit. Et c'est une pression très lourde.
Alors, donc, cette Éliane Houlette nommée par Taubira, c'est elle qui est la patronne du parquet national financier qui va être au départ de l'affaire Fillon. Et le mystère qu'il faut percer, elle l'évoque, là, il y a quelques jours, Éliane Houlette, c'est celui des circonstances qui ont conduit ce parquet national financier a changé le cadre juridique de l'enquête sur Fillon et sur Pénélope subitement. Voilà. Et donc, elle explique, en gros, c'est parce qu'on lui a demandé, elle le dit, subitement, on lui a demandé l'enquête préliminaire ouverte, a dû changer de cadre juridique. Voilà. Et ça n'a pas été anodin sur la suite de l'enquête, Laurent.
D'où la question qu'on se pose, qu'on vous pose, les amis, aujourd'hui. Est-ce que la justice a, oui ou non, faussé l'élection présidentielle de 2017.
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Ah ben pour moi, c'était extrêmement simple. La justice et les médias ont chassé en meute. Je veux pas faire le fanfaron aujourd'hui. Moi, j'étais au cœur de ce dispositif. J'étais là, j'ai tout vu. J'étais dans BFM, j'étais dans RMC. J'ai vu mes confrères. Je parle pas de nos médias à nous, je parle de tout le monde. Oui, collectivement, nous avons... consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais nous avons changé le cours de l'histoire.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Alors moi, je pense que le cours de l'histoire n'en a pas été changé pour une raison très simple, et je veux bien qu'on en discute aussi. Je crois que François Fillon avait déjà perdu l'élection présidentielle avant même que l'affaire n'éclate. Mais au-delà de ça, la vraie question à laquelle on doit répondre, c'est... est-ce que François Fillon a réellement commis les faits qu'on lui reproche? Et ça n'est pas à nous de le dire, ce sera à la justice. Normalement, le tribunal correctionnel doit rendre son jugement lundi prochain. Il sera 13h30, mon petit Éric.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
On va suivre.
Salut Lisa Marie.
Bonjour Laurent, bonjour Éric, bonjour à tous.
Certains jours, on nous reproche parfois à Éric et à moi d'avoir le même avis et donc c'est moins drôle. Bon, mais certains jours, on nous reproche d'être faussement en désaccord. Je peux te dire Lisa Marie, et je peux vous dire à tous les amis, que là, sur l'histoire Fillon, mais avec Éric, on n'est pas d'accord du tout. On s'empeigne depuis des mois sur cette question-là et évidemment, les rebondissements dans cette affaire, on ne pouvait pas passer à côté, il fallait qu'on en parle.
Et vous n'êtes pas d'accord et on vous pose aussi la question, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? C'est le moment de voter. Rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off, ça se passe en story.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Allez, on va au 32-16, mon Laurent.
Bah oui, le plus important, c'est de savoir ce que vous, les amis, vous en pensez. On est avec Abou qui nous appelle de la Garenne-Colombes, près de Paris, les Hauts-de-Seine. Salut Abou.
Salut Abou.
Salut Laurent, salut Eric, et salut Alisa Marie.
Eh ben, bonjour à vous. Bienvenue sur RMC. Tu en penses quoi, toi ? Est-ce que tu crois que la justice a faussé l'élection présidentielle ?
Alors, il y a plusieurs niveaux dans ma réponse. Et dans un premier temps, je voudrais aller dans le sens de ce que tu disais tout de suite, Laurent. Je me permets de te tutoyer.
Bien sûr.
Moi, je vous suis depuis que vous étiez chez Bourdin. Vous commenciez à 7h55, je
tout
crois,
à
de
fait.
Mémoire.
Tous les jours.
5 minutes.
Brunet Neumann, tous les jours chez Jean-Jacques.
Pendant 5
voilà.
ans.
Donc ça durait 5 minutes. C'était les 5 minutes les plus frustrantes de ma vie. Donc je me sens un peu producteur de l'émission parce que l'émission que vous avez aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un truc. Quand je regardais ces 5 minutes tous les jours, je me disais, mais pourquoi ils font pas une émission comme ça qui dure plus longtemps où ils peuvent poser leur point de vue, etc. Donc, premièrement, je tiens à saluer ça et vos divergences, je les constate depuis déjà très longtemps et je sais que vous n'êtes pas fake, quoi, en résumé. Alors, pour revenir au sujet, Fillon et les médias, etc. Donc là, je suis plutôt de l'avis de Laurent, clairement. Mmh. François Fillon s'est éliminé tout seul, selon moi. Et il s'est éliminé tout seul parce qu'il a opposé son discours, ses ambitions à ses actes. Et je voudrais qu'Éric revienne un petit peu à ça, en fait. Parce qu'Éric pointe le fait que la justice aille trop vite, mais que la justice aille trop vite ne doit pas être un problème dans notre pays. Le problème est que la justice, dans certains cas, est trop lente, ou qu'elle ne s'applique pas, mais qu'elle aille trop vite. C'est merveilleux que la justice aille vite, si tant est qu'elle est pertinente.
Ouais.
Donc, je suis vraiment, vraiment.
Moi, je crois que moi,
à ce que dit Éric.
Tu dis exactement. Abou, je vais te répondre et après je te repasserai le micro. C'est Éric Brunet. Tu dis exactement ce que dit sur ce point, hein, Laurent Neumann. Il dit, bah, tu passes ton temps à te plaindre que la justice est lente. Là, elle est allée vite. Enfin, je suis désolé. La justice en France, elle a un rythme qui est lent. Mais pourquoi soudainement, pour un candidat à l'élection présidentielle, François Fillon, se met-elle en branle avec une telle célérité, une telle rapidité? Pourquoi est-ce que soudainement, Madame Houlette, qui est la patronne nommée par la gauche du parquet national financier, soudainement, on lui dit, attention, tu vas changer de procédure, puisque c'est Fillon, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Et le bras armé, pardon, mais le parquet qui est le bras armé du ministère de la Chancellerie, du ministère de la Justice, qui dépend, de l'exécutif, on va dire, pour être gentil, soudainement va lui dire comment elle doit faire pour arriver à la mise en examen de François Fillon. Alors parce que moi je vais te dire une chose. Il y a deux sujets. D'abord je te réponds. Je te termine. Il y a un premier sujet. Est-ce que Fillon est coupable, etc. On verra la semaine prochaine. Peut-être qu'il l'est. Moi je m'en fous.
Ah bon,
c'est pas mon sujet.
Ah bon?
Non, c'est bon. Moi, je suis filloniste jusqu'au bout des ongles.
Ah d'accord. Donc, je me fiche de savoir s'il a commis les faits.
Ça n'est pas mon sujet parce que Terre entière, pendant 3 ans, a enquêté là-dessus. Tous les journalistes conscientisés, les bonnes consciences, les bien-pensants, comme des moutons, ont tous expliqué à la France entière que Fillon était une ordure et que sa femme était sa complice. Très bien. Ok. Très bien. Il est enterré. De toute façon, il ne pourra jamais ressortir de son tombeau politique. Maintenant, deuxième sujet, beaucoup plus intéressant. Et là, mon petit Abou, j'aurais bien aimé les voir, tes petits copains, journalistes, investigateurs.
La justice. Gentiment, Abou, il a rien fait.
Non, mais je lui dis gentiment.
Il t'appelle gentiment, il a le droit de dire deux phrases.
J'ai le droit de m'engueuler avec Abou. Mon petit Abou, j'aurais bien aimé les voir, tes petits copains, investigateurs, Davet, Elom, Mediapart, Canard Enchaîné et compagnie, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant de travailler dans la direction de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire d'une étrange porosité entre l'exécutif et le parquet national financier qui a conduit justement la justice à y aller avec une violence extrême. Et je termine
dans cette émission, tu laisses à bout de répondre.
Et en divulguant aux journalistes, tous les deux jours, comme dans une série télévisée, des petits scoops sur Fillon pendant plus d'un mois, voilà, pour nourrir la presse qui s'en délectait et qui s'en léchait pour lécher les babines. C'est ça qui m'intéresse. Moi, la culpabilité de Fillon, elle a déjà été prouvée mais elle a déjà été démontrée par les journalistes moutonniers. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice. Pourquoi a-t-elle fait ça? Sur l'ordre de qui, mon petit Abou?
Éric, laisse-moi te répondre. Très sincèrement, que tu nous fais une Madame Houlette à ton niveau. Ah. Dans le sens où aujourd'hui, tu fustiges tes collègues et ta corporation sur le positionnement qu'ils ont eu au moment de l'affaire Fillon. Mais laisse-moi juste te dire une chose, Éric. Madame Houlette, elle a fait son travail. Qu'on lui ait mis la pression pour faire son travail, elle a fait son travail. Elle a fait des études pour être magistrate, Madame Houlette.
Ouais.
Tout comme toi, tu as fait des études pour être journaliste et faire ton travail de journaliste. Mmh. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le fait que la justice aille vite, tu réponds à ta question, en fait, dans ton propos, dans le sens où, en effet, on parle de quelqu'un qui se présente au poste le plus éminent de la France, qui va représenter la France, qui va mettre en place un gouvernement, qui va mettre en place des lois qui vont régir nos vies au quotidien. Si cette personne-là, t'as des suspicions, aussi minimes soient-elles, tu dois prendre les dispositions les plus rapides au monde pour pouvoir soit lever la suspicion, soit pour l'écarter si toutefois il s'est rendu coupable.
Abou, c'est Laurent. Est-ce que tu me permets d'ajouter un argument pour répondre à Eric ? Si je comprends bien, Eric reproche à la justice d'avoir été indûment rapide parce que c'était Fillon, j'ai bien compris.
Oui, et téléguidé aussi.
Et donc, j'en conclue.
Juste une parenthèse. Ils ont été vite parce qu'il s'agit d'un candidat à l'élection présidentielle.
Justement,
c'est intéressant.
J'aimerais bien, Eric, finir ma phrase. Juste un mot. Donc, à contrario.
Donc, deux poids, deux mesures, d'accord. Donc, il a un citoyen différent des autres puisqu'ils ont été élus vite avec lui, mais pas avec les autres. Très intéressant.
Si tu veux être un bon avocat de Fillon, il faut que tu écoutes la partie adverse, Eric. Écoute bien. Si j'en conclue.
Je ne fais que ça, j'écoutais depuis des années.
Je t'écoute. Donc, toi, tu penses que la justice a été trop rapide parce que c'était Fillon. Donc, j'en conclus, à contrario, que tu aurais préféré que Fillon soit traité comme tout le monde, donc que la justice soit lente.
Non, c'est pas un sujet Pourquoi tu dis des conneries? J'ai jamais dit ça. Je dis qu'elle a été téléguidée par le pouvoir. Reprends ton micro, mais je dis pas,
Donc, je continue. Tu penses qu'elle a été rapide, excessivement rapide, téléguidée par le pouvoir, et donc rapide. Et donc, que ça a empêché François Fillon de mener une campagne présidentielle normale et peut-être même d'être élu président. De la République.
Ça me va
très bien.
Très bien.
Mais pardon, donc à contrario, tu aurais préféré que la justice soit donc lente comme elle l'est.
Non.
Mais laisse-moi. C'est marrant que tu veuilles pas.
Non, mais je rêve pas que la justice soit lente. Pourquoi tu me réduis à ça? Je rêve pas que la justice soit lente en France, quand même.
Donc, tu aurais préféré que la justice ne se mêle pas,
soit
si tu préfères,
honnête,
de cette affaire pendant la campagne présidentielle. Donc, peut-être que François Fillon intègre l'Élysée avec tous les faits qu'on lui reproche. Donc, avec son irresponsabilité pénale, qu'il ne soit pas jugé, qu'il ne soit jugé qu'à la sortie de l'Élysée, dans 5 ans, voire dans 10 ans, en cas de réélection. Ça porte un nom. C'est ce qui est arrivé avec Chirac quand il est entré à l'Élysée. Ça s'appelle l'impunité. Eh bien, moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose pour la démocratie que la justice, en l'occurrence, ait été vite. Et encore une fois, je dis cela sans préjuger de ce que dira le tribunal correctionnel lundi prochain. Je note quand même que le réquisitoire a réclamé 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour François Fillon, 3 ans de prison avec sursis pour Pénélope Fillon, que les amendes sont considérables et que les faits, ça ne préjuge pas du résultat, un réquisitoire, mais que les faits étaient suffisamment graves pour qu'au moins il y ait un procès.
Ça a été une pantalonnade. Est-ce que tu es au courant qu'au début du procès, un des procureurs du parquet national financier, qui s'appelle Aurélien Le Tocard, Aurélien Le Tocard. Voilà, il s'est avancé vers Fillon, et il a dit, savez-vous, Monsieur Fillon, là, de audience, qu'au Moyen Âge, ce que vous avez fait aurait été passible de la peine de mort. Il dit, c'est un peu comme si aujourd'hui il y avait, un divorce, et qu'un magistrat s'approche vers une femme et dit, savez-vous, Madame, que en Arabie Saoudite, l'adultère est passible de la peine de mort. C'est pareil. Le mec, convoque le Moyen-Âge, il ose dire à Fillon, ce que vous avez fait mérite la mort au Moyen-Âge. T'imagines comment l'orientation des débats...
Il faut peut-être rappeler les faits.
Oui.
Qu'est-ce qu'on reproche à François Fillon? Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Pourquoi? Parce qu'on le suspecte d'avoir fourni à son épouse un emploi fictif et les sommes en jeu, c'est plus d'un million d'euros d'argent public. Et je m'étonne un petit peu parce que toi qui d'habitude es si soucieux de l'utilisation de l'argent public, c'est-à-dire de tes impôts, des miens, je m'étonne que tu prennes les faits avec par-dessus la jambe. Au fond, savoir si Fillon a bien commis ses faits ou pas,
Laurent,
ne t'intéresse pas.
Si.
Et j'imagine que c'est parce que c'est Fillon. Parce que ce serait quelqu'un d'autre,
Laurent,
tu ne réagirais pas comme ça.
Je considère que le tribunal médiatique et la justice, main dans la main, puisque quand la justice a communiqué aux journalistes des faits, des fuites contre d'ailleurs le droit français à communiquer des fuites en 2017 à tous les journalistes tous les deux jours. Voilà, ils ont bien travaillé main dans la main et ils ont tué Fillon politiquement. Donc je considère, moi,
les journalistes font leur métier.
Moi, je considère, si tu veux bien me laisser finir, que Fillon est mort politiquement. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment il a été mis à mort. C'est ça qui m'intéresse dans cette émission.
La question qu'on pose aujourd'hui à tous ceux qui nous appellent au 32-16, on va y aller parce qu'il y a Marie-Hélène qui nous attend, c'est: la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? Il faut que tu répondes à cette question. Toi, tu dis oui, mais j'attends que tu m'amènes des arguments. Bon. Ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on aille voir Marie-Hélène, parce que je crois qu'elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout du même avis que Abou.
D'accord.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
On va remercier quand même Abou, hein, qui nous appelait de la Garenne-Colombes. Bonjour Marie-Hélène, bienvenue sur RMC.
Salut Marie-Hélène.
Bonjour Laurent, bonjour Eric.
On est ravis de t'accueillir.
Merci, moi aussi, je suis ravie que vous me donniez la parole.
Alors, est-ce que la justice a faussé l'élection présidentielle de...
Complètement, je dirais que c'est un hold-up démocratique. Voilà, il s'est passé un lynchage médiatico-judiciaire en règle de l'art. Et nous, les 4 millions de votants à la primaire, on a été spoliés. On a perdu à la déloyale. Premièrement, et là, on en a la preuve, on parlait de cabinet noir, c'était un fantasme. C'est même le juge qui dit lui-même qu'il a subi des pressions. On ne peut pas avoir plus de preuves que ça, quoi.
Qu'est-ce qu'on veut de preuves? Non, c'est pas vrai. Hein. Elle n'a pas dit qu'elle avait subi des pressions.
Si.
Bah, si, elle l'a dit, qu'on l'appelait deux fois par jour, trois fois par jour.
Oui, mais elle utilise même le mot pression.
Oui, mais c'est le rôle du parquet général de surveiller comment travaille le parquet.
Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Le parquet général lui demande de changer de procédure pour trouver une procédure beaucoup plus rapide pour mettre Fillon très, très vite en examen. Non.
Oui, parce que les faits sont très graves.
Mais plus la démocratie.
Non, mais l'indépendance. C'est le ministère de la Justice qui dépend du gouvernement, qui appelle un juge pour lui dire de changer de procédure. Pardon, c'est pas normal.
Marie-Hélène,
pas du tout normal.
Marie-Hélène, il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que tu dis. Tu parles de hold-up démocratique. Le point de départ, c'est quand même de savoir si François Fillon a commis ou non ses faits. Et le deuxième point de départ, c'est de savoir si on peut envoyer à l'Élysée quelqu'un qui aurait réellement commis ses faits. C'est ça la question qu'on doit se poser.
Non, mais tu peux pas faire ça.
Le peuple est le seul juge. Il fallait donner le tribunal.
Mais le peuple a jugé. Il a voté.
Mais le peuple, après un lynchage médiatico dans les règles de l'art. Écoutez, moi je me souviens en février, parce que je suis fan de politique, Eric le sait. C'était un traitement médiatique du matin au soir. Je me rappelle, j'étais au ski, j'avais pas pu skier parce qu'il est tombé des queues de lapin. Et j'étais sur les chaînes d'infos. Et on a non seulement fait un hold-up sur le fond du débat, parce qu'en parlant que de cette affaire, on n'a pas parlé des enjeux de la France, et en plus, on a un hold-up, on a été spolié de notre candidat. Parce que François Fillon, moi je m'en fiche. Moi c'était son programme qui m'intéressait.
Ouais, pareil pour moi.
Pardon Marie-Hélène.
Nos idées, elles n'ont pas été représentées et ça c'est très
c'est
grave.
Vrai. Non mais ça c'est vrai Marie-Hélène.
D'abord,
d'abord Marie-Hélène, je te rappelle.
Merci à la justice indépendante de ce pays. Hein,
mais elle est indépendante.
Tu parles. Ah franchement. On a eu le mur des cons.
Mais attends, mais Laurent.
Le syndicat de la magistrature. Marie-Hélène,
je t'interromps une seconde.
Madame Goulette, elle n'est pas membre du syndicat de la magistrature.
Non. Et les trois magistrats qui ont été dans Haute-Burésie, etc., il y avait des membres du syndicat de la magistrature qui ont été choisis. Non, laisse-moi finir ma phrase. Qui ont été choisis par ce magistrat, quand même. Donc, ils ont été choisis pour instruire l'affaire Fillon. C'était vraiment des gens qui ont été choisis. On sait très bien comment Serge Tournaire est arrivé dans cette affaire. Lui qui avait déjà massacré, entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Il est nommé pourquoi? Parce qu'on se débrouille pour que la juge de permanence, qui normalement doit être nommée, passe son tour. Et deux jours après, c'est à Tournaire d'être de permanence. Et là, on attend que Tournaire soit là pour que ce soit lui qui instruise l'affaire Fillon. Mais la deuxième chose.
Je te dis une deuxième chose.
C'est qu'on parle du syndicat de la magistrature. Alors, les gens qui sont à l'écoute, ils disent syndicat de la magistrature, c'est pas bien grave, etc. Voilà, on les connaît. Il y a eu le mur des cons, c'est pas très grave. Ils vont s'occuper de Fillon. Je voudrais quand même rappeler la fameuse harangue de Baudot. Un des fondateurs, Oswald Baudot, du syndicat de la magistrature, qui dit, messieurs, qui parle aux jeunes juges et qui leur dit, messieurs, soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance. C'est gentil tout ça, mais il parle à des juges. Pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Bref, on est quand même, pardon de parler d'idéologie, mais on est parfois avec certains juges, juges. Et il y en avait donc, dans l'affaire Fillon qui sont ultra idéologisés, il faut le dire, merde. Ah oui, parce que derrière mais la formule, la justice est indépendante, elle est libre dans ce pays.
Aujourd'hui, tu as décidé de t'énerver et de ne pas écouter ce que je te dis.
Vas-y.
Très bien, on peut, hein. On peut faire ça. Ce que je te propose, d'abord, c'est qu'on remercie Marie-Hélène. Je te répondrai dans un instant. Vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16. On va accueillir...
Ah, tu fais un petit teasing sur ta réponse.
Bah, excuse-moi, je t'ai laissé parler. Tu es inarrêtable aujourd'hui. Bah là, mais je sais que ça te tient à cœur, cette histoire.
Mais là, tu auras tout le temps.
Tu es inarrêtable. Donc, j'espère pouvoir en placer une. Mais ça, ce sera dans un instant.
Mais t'en as
placé
plein.
Si vous voulez savoir quel est l'argument pour répondre à Eric, bah, vous restez avec nous. Brunet Neumann, on revient sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann. RMC, midi 14h,
Brunet Neumann.
Éric Brunet,
Laurent Neumann.
Bon, mesdames, messieurs, affaire Fillon, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle ? Pour Laurent, qui est face à moi, c'est non. Parce que Fillon avait, selon lui, déjà perdu avant que n'éclate l'affaire. Pour moi, Éric Brunet, la réponse est oui. J'estime que la justice et les médias ont quand même de concert, main dans la main, volontairement, contribué à changer le cours de l'histoire. Voilà ma position, mesdames, messieurs. Alors, mon Laurent, tu voulais me répondre tout à l'heure et tu as fait un énorme teasing juste avant la pub. Tu as dit, je te répondrai après la pub.
Oui, parce
de
que
quoi
tu
s'agissait-il?
Tu as dit, non seulement on a accéléré le cours de la justice, mais sous la pression, on suppose sous la pression politique. Donc, de qui? Le parquet, tu dis, c'est la chancellerie. La chancellerie, c'est l'Élysée. L'Élysée, c'est Théo Hollande. Alors, dans ces cas-là, il faut essayer de comprendre à qui profiterait le crime, si crime il y avait. Or, François Hollande, il n'était plus candidat à l'élection présidentielle. Son ancien Premier ministre, Manuel Valls, avait déjà été battu. Il n'avait plus aucune chance d'être élu président. Donc, Hollande aurait fait pression sur la chancellerie, qui elle-même aurait fait pression sur la procureure, pour faire élire qui? Macron?
Je sais pas.
C'est une blague.
Non mais c'est une blague.
Donc ça ne tient pas. Ça s'appelle une construction intellectuelle que je comprends très bien quand elle provient des avocats. Les avocats, ils font tout leur possible pour défendre leurs clients et je considère qu'ils ont tous les droits. Mais les autres, les journalistes, ceux qui raisonnent, il faut raisonner jusqu'au bout. Donc pourquoi François Hollande serait-il intervenu pour faire battre Fillon? Expliquez-moi.
Tu crois
parce que moi je comprends pas.
Tu crois que ça serait
Non, réponds à cette question.
Je vais te répondre.
Pourquoi?
Ça serait la première pantalonnade des stupidités de François Hollande dans son quinquennat.
Ah,
François
donc
Hollande.
Il faudrait maintenant faire la démonstration que François Hollande est un abruti. Pardonnez-moi l'expression.
Mais pourquoi tu fais ça? Ça t'honore pas de faire ça.
Si.
Arrête,
c'est donc désagréable. Donc pourquoi François Hollande aurait-il fait ça?
Mais
pourquoi?
Attends, déjà. C'est une tradition. Moi, j'ai fait de nombreuses vidéos sur cette affaire. Si tu veux l'histoire des cabinets noirs sous la Ve République, il y en a toujours eu. Sous Sarkozy, d'ailleurs, c'était Villepin qui était aux basses œuvres. Sous Hollande, il y en a toujours eu des cabinets noirs. C'est pas un cabinet tout noir,
peint
en noir.
Voilà.
C'est. Eh ben, je vais t'expliquer.
Ouais, je n'ai même pas osé te parler du cabinet noir tellement c'est ridicule.
Je vais t'expliquer.
Ouais, c'est toi qui en parles.
Donc, l'histoire est très simple. C'est que quand tu diriges un exécutif et qu'il y a une élection qui se profile, tu demandes à des collaborateurs, des ministres, etc., de bien vouloir trouver des boules puantes sur tes concurrents. C'est ça.
Il n'était pas concurrent, il n'était pas candidat.
Et or, à la moitié de son mandat, Hollande, bien évidemment, pensait qu'il allait se représenter. Et il s'est défilé à la fin de son quinquennat. Bon.
Mais le canard enchaîné, c'est le 24 janvier.
Mais j'entends bien. Mais l'affaire Fillon avait déjà été lancée.
Mais non, le 24 janvier.
Pas l'affaire judiciaire. Mais bien évidemment, les boules puantes, il y avait déjà des gens qui cherchaient sur Fillon, sur tous les candidats de la droite potentiels, c'est évident, voilà. Et après, cette affaire a été lancée un peu n'importe comment et déstabilisée. Et par ailleurs, déstabiliser un candidat de droite, c'est toujours bon. Et j'ajoute que il n'y a pas besoin de donner beaucoup d'ordres à des magistrats qui sont au syndicat de la magistrature. C'est une jubilation de se payer Sarkozy. C'est une jubilation de se payer Sarkozy. C'est un vrai petit bonheur, c'est gymnastique, comme de se payer Fillon.
Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi début février, quand François Hollande n'a plus aucune chance de devenir président de la République, pourquoi il aurait donné des instructions pour faire battre Fillon? Je ne comprends pas.
Non.
Je ne comprends pas la construction intellectuelle.
Je te dis juste que déstabiliser le candidat officiel de la droite, c'est toujours un petit bonheur, quelles que soient tes ambitions personnelles, c'est toujours un petit bonheur.
Il aurait fait ça de manière désintéressée, juste par idéologie, pour que la droite n'accède pas au pouvoir.
Et par ailleurs,
donc, pour aider Macron.
Quand on a des magistrats qui sont au syndicat de la magistrature, par exemple, ils n'y sont pas tous, puisqu'il n'y a que 22 ou 23%, il n'y a pas forcément besoin de leur envoyer des fax en 3 exemplaires pour leur demander d'intervenir. Je te le redis, il y a des juges dans ce pays qui se lèvent tous les matins en rêvant de se payer soit Sarko, soit Fillon. Enfin, c'était ça il y a quelques années.
T'es conscient qu'il n'y a aucune preuve de tout ce que t'avances. C'est des suppositions.
T'entendras dans la deuxième partie de l'émission, François Léman, qui va arriver, ancien magistrat et avocat, qui justement, lui, a publié un livre sur le sujet. Et je pense qu'avec François Hollande, il est plus précis que moi.
Et dans un instant, il y a une journaliste qui nous a rejoint, c'est Pauline Rovena. Elle est l'auteur, elle est journaliste à BFM TV,
bien
évidemment.
Sûr. Elle a fait un très joli, superbe documentaire.
Qui a tué Fillon ?
Ouais.
Voilà,
on a vu plusieurs fois sur BFM TV.
Et François Fillon après le crash d'ailleurs. Il y a eu deux documents sur BFM TV. On va lui poser la question. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille voir Lisa Marie. Est-ce que tu peux nous donner, Lisa Marie, une première tendance, plutôt Brunet ou plutôt Neumann, ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
Eh bien, à la question « La justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle ?», vous êtes 75% à répondre oui, comme Eric.
Bah, tu vois, les arguments convainquent.
Ouais.
Voilà.
Pauline.
Oui.
Bon, je sais qu'on a. Moi, j'ai adoré qui a tué Fillon et François Fillon après le cash. Sauf que je suis frustré. Il me manque cette dimension-là. C'est cette enquête sur la justice elle-même.
Parce que je fais qui a tué François Fillon un an jour pour jour après le Canard enchaîné. Donc, on rappelle que l'affaire éclate avec un article du Canard enchaîné et un article signé par deux journalistes que j'ai rencontrés pour le doc, qui évidemment nous explique. Pas vraiment comment est-ce qu'ils arrivent à leurs informations, parce qu'évidemment,
secret des sources,
évidemment.
Voilà.
Et moi, je déroule sur un angle humain, si vous voulez. Moi, ce que je cherche, c'est qui a tué François Fillon, comment est-ce qu'on l'explique, qui a porté... C'est le crime de l'Orient Express, souvenez-vous. Ils y sont tous avec leurs petits couteaux. Qui a planté les couteaux ? Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aidé. Et la conclusion de ce premier doc, qui a tué François Fillon, pour moi, c'était... C'est François Fillon lui-même, parce que ses travers, parce que son goût de l'argent, parce que les pièges de Robert Bourgie... C'était le premier doc. Ah oui. J'étais qu'un an après.
C'était terriblement à voir.
Pauline, Eric, pardon.
Sur l'affaire des costumes.
Il faut rappeler quand même deux, trois choses. D'abord, il y a l'affaire de l'emploi fictif présumé de Pénélope Fillon.
Ouais.
Ça, c'est une première chose.
Puis il a refusé deux mondes.
Mais il y a eu l'histoire des costumes Arniz fournis par Robert Bourgie. Mais il y a eu l'emploi fictif de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes, pour lequel le patron de la Revue des Deux Mondes a été condamné à de la prison avec sursis. Il a même admis que oui,
c'était une procédure de plaidé coupable.
Il a admis que tout ça était totalement fictif. Donc ça fait quand même beaucoup. Et alors on peut reprocher à la justice d'avoir été trop vite. On peut inventer des procédures ou des constructions intellectuelles en disant c'est la faute d'un tel qui s'est fait appeler par un tel.
Il faudrait enquêter.
N'empêche que la question c'est est-ce que François Fillon s'est fait
il faudrait clarifier.
L'affaire Houlette, parce que on parle de cette affaire
donc
aujourd'hui...
Donc 10 juin, Éliane Houlette devant la commission d'enquête à l'Assemblée.
Ça vous inquiète pas plus que ça, tout va bien.
Ça nécessite...
Elle a un peu savonné, elle s'est trompée
pas
dans les mots.
Non,
quand elle parle devant
les... Ouais. Ça nécessite...
Ça ne te donne pas, Pauline, envie de faire un numéro 3 de ton documentaire sur Fillon et la justice.
Mais bien sûr.
Ah ben alors, faisons-le.
On y va là, elle a parlé le 10 juin. Donc ma question c'est, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça à cœur ouvert?
Oui.
À qui profite le crime ? Est-ce que c'est un conflit personnel avec la procureure ? On sait qu'elles sont en conflit direct, ces deux femmes. Pourquoi est-ce qu'elles décident de se mettre à table ? À quoi ça sert ?
Pourquoi, il y a un an, elle a dit jurer qu'il n'y avait eu aucune pression, et tout à coup, un an après, alors qu'elle est à la retraite, elle s'exprime devant une commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, pas du tout sur l'affaire Fillon, sur l'indépendance de la justice en général, et tout à coup...
Devant sept personnes,
heureusement que c'était filmé, parce que sinon personne ne l'aurait su. Un an après, elle dit « Ah bah oui, en fait, si, j'ai eu des pressions. » Je voudrais juste donner un argument, juste que les 75% de nos amis qui nous écoutent et qui sont d'accord avec toi. Écoute juste cet argument un instant. Si la justice n'avait pas été rapide dans cette histoire, imaginez...
On aura un bon président de la République qui aurait fait des réformes.
Que n'aurait-on dit ?
Tu ne me laisses jamais aller jusqu'au bout parce que c'est l'argument qui te gêne. C'est l'argument qui te gêne et je le comprends. Imaginons une seconde que François Fillon ait été élu à l'élection présidentielle. Il aurait intégré l'Élysée. Ces faits-là, on les aurait connus. Ils auraient fait scandale. Il y aurait eu des articles dans la presse. Il y aurait même peut-être eu une enquête. Sauf que, président de la République, irresponsabilité pénale. Pas de jugement. Ça porte un nom. Ça s'appelle l'impunité. Et donc, moi, je vais te dire, je suis plutôt satisfait que la justice ait été vite. Alors oui, je suis pas complètement dingue, je suis pas aveugle, j'ai compris, oui, tu as raison, que la justice a été plus vite pour François Fillon que pour bien d'autres.
C'est vrai.
Je pense par exemple à François Bayrou, dont on a cité le nom. Ça fait 2 ans qu'il attend que son affaire avance et rien n'avance. Oui, je veux bien l'entendre. Mais là, en l'occurrence,
la justice choisit d'être rapide avec, par exemple, la France Insoumise, avec le Rassemblement National. Je te pose la question, moi. Donc, elle a le droit de choisir comme ça, la justice. Elle choisit Fillon, on est rapide. La France Insoumise, on est rapide. Mais Bayrou, on est moins rapide.
J'inverse la question. Est-ce que c'était pas pour le bien commun, pour le bien public que la justice aille vite sur un candidat à l'élection
présidentielle. Dans un contexte particulier.
Cet homme nous aurait peut-être représenté pendant 5 ans dans le monde entier.
Mais qui est l'arbitre des élégances? Alors la justice, elle aurait pu aussi dégager De Gaulle. Elle aurait pu dire, tiens, Pompidou, c'est pas bien dans cette affaire parce qu'il y a des rumeurs sur la légèreté de sa femme. Non, mais je pose la question.
Mais De Gaulle n'a rien fait de mal.
Non, mais j'en sais rien, t'en sais rien. Bon, alors, si tu veux chercher, tu rigoles ou quoi?
Je peux te faire réécouter un son de
service d'action civique.
Je peux te faire réécouter ce que disait François Fillon en lançant ta campagne.
Non, mais tu peux le faire écouter. Rassure-toi, on l'a entendu tous les jours pendant 3 ans sur le général de Gaulle, j'imagine. Très bien, allez, on écoute.
Écoute François Fillon.
Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Eh ben voilà, la justice a appliqué à la lettre ce que François Fillon réclamait pour tous les autres. Eh bien, la justice l'a appliqué à François Fillon. Non, c'est formidable, non ?
Il n'a pas été condamné encore, Fillon.
Je sais bien. Voilà. Mais tu as vu la première phrase, ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Oui, et donc ça aurait été quand même bizarre d'envoyer à l'Élysée quelqu'un à qui on reprochait tous ces faits.
Non, mais si tu vas.
Sans préjuger de sa culpabilité,
si
d'ailleurs.
Si tu vas par là, si tu vas chercher la petite bête, depuis que la France est France, depuis le 5e siècle et Clovis, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un président sur lequel tu ne peux pas trouver une affaire, statuer et dire regardez, c'est un scandale de Clovis à Macron.
Je te rappelle que pendant la campagne sur Hollande,
il n'y a pas eu des scandales sous Hollande, sous Sarkozy, il y en a eu des dizaines.
Comme tu as de la mémoire, Eric, oui. Tu te souviens que certains, pendant la campagne présidentielle, ont tout fait. Ils ont remué ciel et terre pour trouver quelque chose pour empêcher Macron d'être candidat. Ils ont tout fait. Ils n'y sont pas parvenus. Oui. Là, on a trouvé sur Fillon. Bah ouais, pas de chance pour lui.
Mais justement, il cachait moins bien.
Sans doute.
Fillon, ça a duré 30 ans quand même. Hein.
Fillon, lorsqu'il arrive devant le parquet national financier, devant les magistrats, vous savez, il y a ce fameux procureur qui lui dit au Moyen-Âge, ce que vous avez fait aurait été condamné par la peine de mort, délicat. Il répond la chose suivante, il déploie une petite feuille, tu as vu ces images, hein, Pauline, 21-29-7, et il lit, il y a deux phrases que je vous lis, hein, il dit ça devant Houlette et devant les juges, j'ai été condamné sans appel, il y a 3 ans, par le tribunal médiatique, ma vie, celle de ma famille, ont été fouillées dans les moindres recoins pour tenter de relayer une accusation dont l'objectif était clair, m'empêcher de concourir, dans des conditions normales à l'élection présidentielle. Les dégâts sont irréparables. Pour l'élection présidentielle, bien sûr, pour le courant de pensée que je représente, quelle que soit d'ailleurs votre décision, rien n'y changera. Et puis il y a notre honneur. C'est cet honneur que nous allons essayer de défendre. Bon, moi, je n'enlève rien de ça.
Mais nous non plus.
Moi non plus.
Formidable, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Ça veut donc dire, vous êtes d'accord quand il dit j'ai été condamné sans appel il y a 3 ans par le tribunal médiatique. Vous êtes d'accord?
Absolument.
Bon, très bien.
Absolument d'accord.
Et on attendra la décision lundi 29
juin. Et je vais même aller plus loin. Figure-toi, Eric, je déteste le lynchage. Et la manière dont ça s'est passé, moi aussi, m'a donné des haut-le-cœurs. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que François Fillon a commis ces faits ou pas? Et ça, je le saurai lundi. Vous continuez à nous appeler, les amis. On vous attend. Vous êtes déjà très nombreux au 32-16. Est-ce que la justice a, oui ou non, faussé l'élection présidentielle de 2017? Brunet Neumann revient dans un instant avec nos invités sur RMC, évidemment.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann. RMC,
midi 14h.
Brunet Neumann.
Bon, mes petits amis, la question est très simple. Affaire Fillon, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle, mon Laurent?
Est-ce qu'on lui a volé son élection?
On lui a volé, bien. Pour moi, c'est oui. Pour Laurent, c'est non. Et on va
Stéphane.
Retrouver
Stéphane.
Salut Stéphane.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Il nous appelle de Paris. Salut Stéphane, bienvenue sur RMC.
Salut à tous, bravo pour votre émission et surtout bravo à Pauline pour son remarquable documentaire.
Elle rougit.
Un vrai travail de journaliste et ça faisait plaisir que cela soit fait, même aussi rapidement, parce que c'était remarquablement bien fait.
Merci Stéphane.
Ceci dit, moi je voudrais dire une chose, surtout aux électeurs de droite, on va dire aux 90% de ceux qui ont voté Fillon et qui sont persuadés qu'un complot horrible, que les forces noires, rouges ou je ne sais, ont eu sa peau. François Fillon s'est suicidé tout seul, comme un grand, sans l'aide de personne. D'une part, avec une campagne de primaire du premier tour qui a été très très à droite et où il a passé plus de temps à attaquer Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qu'à faire la promotion de ses idées. D'autre part, que de quoi se souvient-on du programme de François Fillon et quelle aurait été sa politique dans les circonstances actuelles?
Ah bah moi, je peux te le dire, Stéphane, hein, 500 000 fonctionnaires de moins, voilà. La retraite à 67 ans.
Excellent, tout ça. Présente-le-moi, monsieur.
Tu le connais déjà.
Travailler 39 heures en étant payé 35, et je ne te parle pas de ce qu'il proposait sur la sécurité sociale.
Ouais,
quand tu viens de voir l'épidémie qu'on a traversée et le problème des soignants, je ne te dis pas.
Ouais, le RSA pour tous, c'est vachement mieux. Le RSA pour tous, c'est vrai que ça a plus de gueule.
Un autre point. Qui, moi, m'a profondément choqué dans la campagne de François Fillon. C'est que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, et qu'il ait défendu cette idée de complot pour essayer de se justifier, ça, je peux le comprendre en tant qu'individu face à l'affaire de justice. Mais comment pouvait-il croire, avec les affaires qui apparaissaient, qu'il pouvait rassembler au second tour? Qu'est-ce qu'aurait fait une Marine Le Pen si elle avait été en face de lui au second tour? Ça aurait été un massacre. Un massacre. Je ne comprends pas que quelqu'un comme François Fillon n'ait pas compris dès le départ que toutes les casseroles qui commençaient à tomber provoquaient un vacarme que tout le monde entendait. Il s'est suicidé tout seul, c'est dommage, je le regrette pour la droite.
Stéphane,
les électeurs de droite comprennent qu'ils ne peuvent pas avoir des candidats qui se comportent ainsi.
Stéphane, juste, pardon de t'interrompre, mais j'ajoute juste un argument. Moi, j'entends l'argument des électeurs de droite qui disent, du coup, nos idées n'ont pas pu être représentées de façon sereine. C'est vrai ?
C'est vrai.
Mais qu'est-ce qui a empêché François Fillon de dire, écoutez, compte tenu de l'affaire qui me tombe sur le coin du nez, il faut que je me défende, je me retire. Il l'aurait dit très tôt.
C'est ça, trois semaines avant le présidentiel.
L'élection, c'était au fin avril.
Et on
parlait du
24 janvier.
Voilà.
Début, il aurait dit dès la première
attaque. Il le sait, lui, ce qu'il a fait ou pas fait dans l'affaire Pénélope.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah bon. Tu touches à une dimension qui est du ressort psychologique. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient très proches de Fillon et qui ont dit, après l'échec de Fillon à la présidentielle,
qui
lui ont dit, non, je ne peux pas, de ses chargés de communication, qui lui ont demandé, pourquoi ne nous avez-vous pas dit avant l'élection pour cette histoire de Pénélope Fillon de votre épouse? Et je t'assure qu'ils m'ont répondu, il y a eu un moment tout à fait inouï au restaurant, Fillon a eu les yeux qui ont brillé, une larme a coulé, et il a dit, parce que jamais, ces faits-là, je ne me suis senti coupable de ça avant la présidentielle. Voilà,
c'est tout. Ah oui, mais ça, c'est de l'impunité, non, de pas se sentir.
Non, c'est que je pense, c'est un autre truc, c'est que. C'est peut-être, si vous voulez. Moi, je pense simplement que Fillon a fait ce que beaucoup de parlementaires faisaient à l'époque. Hein, ça commence aux années.
Tout le monde n'était pas candidat à
la
présidentielle.
À la fin des années 90. Et que, comme beaucoup de gens, il a peut-être obturé, il a peut-être considéré que c'était une habitude à laquelle, d'ailleurs, il avait mis un terme. Voilà, c'est tout. Arrêtez de le présenter comme un perceur de coffre-fort, quand même.
Eric, je perceur de coffre-fort. J'ai quand même pas été jusque-là. Mais enfin, il y a 1 million d'euros quand même qui sont passés à l'as dans cette histoire.
Attends, 1 million d'euros sur plus d'une décennie. Vous me faites marrer. Ouais. Présenter les chiffres comme ça, on a l'impression que c'est un perceur de coffre-fort. Simplement, c'est sur plus de 15 ans.
C'est sur l'argent public, hein, visiblement.
Non.
Allez, on va remercier Stéphane qui nous appelait de Paris. Pauline Revena, journaliste à BFM TV, est toujours avec nous. Qui a tué Fillon? C'est elle qui avait fait ce formidable document pour
BFM TV.
Elle
a dit qu'il y aurait peut-être un troisième volet sur la justice.
Dans un instant, et c'est une raison supplémentaire pour rester avec nous, on reçoit Hervé Léman, il est avocat, c'est lui qui a écrit le livre Le procès Fillon, et je peux vous dire, les amis, qu'il a des arguments et qu'il va falloir s'accrocher. Ouais. Vous restez avec nous, Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 14h. Brunet Neumann.